Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand l'OMC remet une pièce dans le jukebox de la guerre commerciale, avec son autorisation, les États-Unis s'apprêtent à surtaxer toute une série de produits européens, dont les vins et les fromages français, à partir du 18 octobre. Mais l'Europe ne veut pas se laisser faire. Est-ce une partie de poker menteur? Y aura-t-il des négociations d'ici là? C'est ce qu'on verra dans un instant. Des policiers et des pompiers inquiets pour leur santé. Et ceux qui étaient au plus près de l'incendie de Lubrizol, certains ressentent toujours les effets. Leur état sera particulièrement contrôlé dans les semaines qui viennent. Vendre des tickets, contrôler les trains, passer le balai s'il le fallait, c'est l'ancien chef de gare qui parle. Jean-Pierre Farandou, futur patron de la SNCF, veut décloisonner les tâches des cheminots. Voilà qui intéressera votre invité dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, il s'agit du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous 01 45 24 7000, passez par l'application France Inter ou les réseaux sociaux.
Dans ce journal aussi, le Brexit et les nouvelles propositions de Boris Johnson accueillies avec une grande tiédeur en Irlande du Nord. Nike dans la tourmente de l'affaire Salazar, affaire de dopage. Et puis les cadences infernales du 15 de France en Coupe du Monde. Pas facile de jouer tous les 4 jours.
France Inter.
Vins et fromages français, outils et gaufres allemandes, whisky irlandais et cachemire anglais taxés à la douane américaine, plus 25%. Ça n'est pas la première fois que les États-Unis s'attaquent aux exportations européennes, mais cette fois c'est avec la bénédiction de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui autorise l'Amérique de Trump à remonter ses taxes pour compenser les subventions que l'Europe a accordées à Airbus au détriment de Boeing.
L'OMC se comporte beaucoup mieux avec nous depuis que je suis président. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus, comme pendant des années, arnaquer les États-Unis. On enregistre beaucoup de victoires. Là, c'est une victoire à 7,5 milliards de dollars.
Donald Trump content de lui. Son administration a dégainé dans la nuit la liste des produits surtaxés à partir du 18 octobre. Plus 10% sur les avions, plus 25% sur tout le reste. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Tout cela va-t-il vraiment se faire dans 15 jours ou est-ce que c'est un nouveau coup de pression de Donald Trump sur des négociations qui auraient lieu d'ici là?
On peut parler à ce stade de fortes menaces, Florence. Donald Trump triomphe, on vient de l'entendre, la liste de produits à taxer est prête, encore faut-il appuyer sur le bouton rouge. Ça, ce n'est pas encore fait et il y a des précédents. Souvenez-vous cet été, des menaces sur le vin français en représailles à la taxe instaurée par Paris sur les géants du numérique. Il y a une négociation en marge du G7 à Biarritz et on n'en a pas vu la couleur. Pareil pour le feuilleton avec la Chine, après avoir crié très fort, Donald Trump a finalement estimé qu'il était urgent d'attendre la fin de l'année. Sur l'acier, en revanche, les menaces à l'encontre de l'Union européenne avaient, elles, bien été mises à exécution l'année dernière. Donc, il y a une incertitude et la campagne que le président américain va mener d'ici l'an prochain peut faire pencher la balance dans deux directions. La campagne pour sa réélection, soit il jouera les gros bras et ira jusqu'au bout pour affirmer une certaine idée de la suprématie américaine, soit il renoncera pour des raisons économiques, car des importations plus chères, ça veut dire des prix en hausse pour les entreprises et au final pour les consommateurs, ce qui n'est jamais très bon dans un contexte électoral.
Et ce qu'il faut dire aussi, Fabien, c'est que les Européens n'ont pas l'intention d'en rester là et que personne, finalement, n'a intérêt à jouer au jeu des frontières douanières.
Non, parce que le commerce mondial n'a pas besoin de ça. C'est un moteur de la croissance et toutes les prévisions sont revues à la baisse ces derniers mois, les unes après les autres, à cause du différend avec la Chine. Certaines économies européennes, comme l'Allemagne, sont particulièrement dépendantes de leurs exportations. D'intenses négociations devraient s'ouvrir dans les prochains jour. L'Union européenne se dit d'ailleurs prête à défendre fermement ses intérêts.
Fabien Cazot, chef du service économique et social de France Inter.
Il est 8h04 à Rouen, Florence. Les résultats d'analyse se suivent et se ressemblent.
Rassurante, après l'incendie de l'usine Lubrizol, pas de taux de dioxine inquiétante dans les suies, pas de pollution particulière dans l'air, mais reste à mesurer l'effet cocktail des différents produits chimiques qui ont brûlé et à évaluer l'état de santé des 270 pompiers et des 150 policiers au plus près de la combustion jeudi dernier. Ils n'ont pas tous eu l'équipement nécessaire selon leur syndicat. Certains se plaignent encore de maux de ventre et d'irritation aux yeux et à la gorge. Hier, leur hiérarchie a tenté de les rassurer, Thibault Lefebvre.
En première ligne, pendant 12 heures, face aux flammes, les pompiers. Le SDIS 76 a organisé hier un comité d'hygiène et de sécurité exceptionnel. Il a abouti à la mise en place d'un plan de suivi précis. Le colonel Rémi Véclaviac est le numéro 3 des pompiers de Seine-Marie. maritime.
On ne laisse pas tomber nos hommes. Trois prises de sang vont être faites entre là, cette semaine et à six mois. L'intégralité des analyses seront communiquer aux sapeurs-pompiers pour ne pas augmenter une psychose à une psychose.
Plus loin du brasier, en dehors du périmètre d'intervention, il y avait des policiers chargés de sécuriser la zone. Certains sont aujourd'hui malades. Ils envisageraient, selon les syndicats, de porter plainte contre X pour dommages corporels par manquement de l'obligation de sécurité. La réponse du préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand.
Les suivis médicaux qui seront souhaités seront évidemment mis en place. Par, je dirais, acquis de conscience et pour que les fonctionnaires ne se sentent pas en difficulté ou abandonnés.
La dernière interrogation concerne le matériel. Selon les autorités, les pompiers les plus exposés portaient la nuit de l'intervention des masques isolants alimentés d'oxygène, les plus éloignés de simples masques filtrants. Et en dehors de la zone sinistrée, les policiers n'avaient pas de tenues adaptées.
Et ça n'est pas à l'État de payer pour les dommages de l'incendie. C'est Lubrizol qui en aura la responsabilité, a précisé Elisabeth Borne hier soir aux députés qui l'interrogeait. Le principe pollueur-payeur doit s'appliquer, qui concerne dans l'immédiat 1800 agriculteurs dont la production est à l'arrêt depuis l'incendie. Ils seront indemnisés sous 10 jours, a promis leur ministre. Tous les internes des urgences de l'hôpital de Mulhouse en arrêt maladie depuis lundi pour cause d'épuisement professionnel. Il n'y a plus assez de titulaires, de médecins titulaires dans le service. Seulement 7, alors qu'il devrait être 34. Les internes font face à des décisions beaucoup trop graves. C'est une information française. Bleu Alsace. Ils sont le premier lien entre les citoyens et la politique. Les mains dans le cambouis dans leur commune, les maires ne connaissent pas la défiance des politiques nationaux, mais la violence sur le terrain. 92% de ceux qui ont répondu au questionnaire du Sénat envoyé après la mort du maire de Signes cet été racontent avoir déjà été agressés. Les insultes, les menaces, parfois les coups. 543 maires victimes de violences physiques. Les sénateurs Cécilia Arbonne ne s'attendait pas à de tels récits.
14 attaques à l'arme blanche, couteau, hache, machette, 105 coups de poing, 7 gifles, 32 élus poursuivis, heurtés par une voiture ou un scooter, des faits gravissimes.
Ce questionnaire, c'est une sorte de cri d'alarme qui est lancé par les maires de France.
Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat.
Le drame de Signes, malheureusement, n'est pas isolé, même si là, il y a eu mort d'homme. Dans d'autres cas, il y a eu des blessures, 6 mois d'hôpital parfois, des maires qui se retrouvent sur le capot d'une voiture sur 40 ou 50 mètres, des maires qui disent pour 16% d'entre eux qu'on s'en prend à leur famille, leurs conjoints, leurs enfants. C'est un phénomène qui était méconnu. Les maires, quand ils sont agressés, évitent en général de porter plainte.
Les élus locaux, explique Philippe Bas, ne veulent pas devenir des shérifs. Ils se sentent seuls, abandonnés. Le Sénat a adopté un plan d'action. Certaines des mesures seront intégrées au projet de loi Engagement et Proximité, examiné à partir de mardi prochain. Par ailleurs, une lettre a été envoyée au gouvernement pour garantir une protection juridique et diffuser à l'ensemble des parquets des orientations fermes de politique pénale en cas d'agression.
Des maires nombreux à participer au grand débat lors de la crise des Gilets jaunes face à un président en bras de chemise. Emmanuel Macron remet ça ce soir à Rodez pour parler réforme des retraites. Il avait reporté son déplacement jeudi dernier après la mort de Jacques Chirac. Et y aura-t-il des cheminots dans la salle à Rodez, eux qui vont perdre progressivement leur régime de retraite et travailler avec des collègues embauchés après le 1er janvier prochain qui n'auront plus le statut de cheminot sous la houlette d'un nouveau patron, Jean-Pierre Farandou, choisi par Emmanuel Macron. Il a passé son entretien d'embauche en quelque sorte devant les députés hier, entretien qui va sans doute en décoiffer plus d'un à la SNCF, Maxime Deps.
Pas question de faire un statut bis, sinon ça n'aurait pas de sens de l'avoir supprimé avec l'arrivée de la concurrence. On le sait, le cheminot de demain se devra d'être plus compétitif et ça passera pour Jean-Pierre Farandou par quelques sacrifices.
Il faut absolument que les salariés de la SNCF ne soient pas attachés à une seule famille de tâches et acceptent de faire plusieurs tâches. Vous avez vu que j'ai un peu d'ancienneté dans cette maison. Ben, quand moi je suis rentré à la SNCF, il y avait des gens polyvalents. C'est pas nouveau, la SNCF. Les gens dans les gares, ils faisaient tout. Ils vendaient les tickets, ils faisaient passer les trains, ils livraient les wagons et ils passaient un coup de balai s'il le fallait.
Le futur patron de la SNCF, qui sent remettre en cause les 35 heures, veut une meilleure organisation du travail, quitte à prononcer des mots qui fâchent.
À la SNCF, se sont sédimentés au fil des décennies des tas de petits accords locaux qui ont tous en fait pour effet que les gens travaillent moins que 35 heures. Bon, mais ça, on n'a plus les moyens, on a peut-être pu le faire à une époque, on ne peut plus.
Des cheminots à moins de 35 heures, Didier Aubert de la CFDT remet les pendules à l'heure.
Ils font pour beaucoup plus de 35 heures parce qu'il y a des travaux de nuit, il y a des chantiers qui sont décalés et qu'il n'y a pas à stigmatiser les cheminots qui, soi-disant, feraient moins que leurs horaires de travail. Et le président Farandou, il réussira sa mission à une condition, c'est celle d'avoir les cheminots avec lui.
Didier Aubert, pour qui Jean-Pierre Farandou a surtout cherché hier à flatter l'ego des députés face à lui, certain qu'il n'aura pas le même discours lorsqu'il fera la tournée des gares.
Bagdad, ville morte aujourd'hui. Tous les déplacements interdits après 2 jours de manifestations contre la corruption et le chômage dispersés à balles réelles et un bilan de 9 morts. Le gouvernement irakien a décrété un cessez-le-feu cette nuit pour éviter une 3e journée de mobilisation. Le Brexit, selon Boris Johnson, ne convainc ni l'Europe ni l'Irlande. Sa proposition de compromis sur la frontière irlandaise n'offre pas les garanties nécessaires. Il reste encore du travail. On dit en substance Jean-Claude Juncker, Michel Barnier et Guy Verhofstadt, même tiédeur à Dublin de la part du Premier ministre irlandais. Ce nouveau système qui permettrait à l'Irlande du Nord de rester dans le marché unique européen comme la République d'Irlande, mais qui créerait donc une frontière avec le Royaume-Uni, n'est pas la panacée. Reportage à Newry, une petite ville très commerçante, à 10 kilomètres de la frontière côté britannique. Reportage signé Emeline Vin.
La boulangerie Shelbourne est une institution pour Newry. La proposition de double frontière a bien plu à Ivan, un habitué de la pâtisserie et partisan du livre, il y a 3 ans.
Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va faciliter le commerce des deux côtés. C'est vrai que je n'aimerais pas qu'il y ait à nouveau des contrôles à la frontière, mais avec les nouvelles technologies, ça ne devrait pas être un problème.
Autour de lui, les regards sont désapprobateurs. Callum et Amy sont venus s'offrir un goûter en sortant du lycée.
Ça pourrait faire revenir la violence en Irlande, surtout que ça a déjà été le cas. Nos parents nous racontent des tas d'histoires sur comment c'était avant. En plus, nous, on fait partie d'un groupe, ça risque d'être compliqué d'aller faire des concerts au sud.
En fait, voyager en Irlande serait plus compliqué.
Plus compliqué, surtout que Boris Johnson n'a pas détaillé son projet. Selon la gérante de la pâtisserie, Marie Downey, c'est parce que lui-même ne comprend pas de quoi il s'agit.
Il ne se préoccupe que des Londoniens, il ne s'intéresse pas aux Irlandais du Nord ni à ce qui se passe à la frontière. Nous ne voulons pas de cette double frontière ni des douanes, ça ne peut pas fonctionner. Nous importons certains de nos ingrédients de Dublin. Il faudrait qu'on répercute la hausse des prix. Nos clients ne vont pas apprécier.
Des clients qui viennent du Sud, pour un quart d'entre eux, ils pourraient ne plus franchir la frontière aussi régulièrement en cas de retour des douanes. Dublin, Emeline Vin, France Inter.
Il lâche son poste de directeur général de l'Opéra de Los Angeles. Le célèbre ténor espagnol Plácido Domingo a démissionné pour cause de harcèlement sexuel. Plusieurs femmes l'accusent de les avoir agressées. Nike a-t-il participé à l'entreprise de dopage imaginée par l'entraîneur américain Salazar, suspendu avant-hier pour trafic de testostérone? Nike a financé le programme d'entraînement d'Alberto Salazar. Il était le salarié de l'équipementier. Et le PDG de Nike aurait été au courant des pratiques de l'entraîneur. Selon l'agence antidopage américaine, il s'en défend ce matin, se disant horrifié et choqué. Et pourtant, Loïc Piala.
En 2009, l'entraîneur Alberto Salazar décrit à Mark Parker, PDG de Nike, une expérience qu'il a menée sur ses propres enfants, des adultes. Il leur a passé sur le dos de l'androgel, une crème de testostérone. Il découvre que les niveaux du produit dopant restent en dessous de ceux fixés par la réglementation internationale. Réponse de Parker, ce serait intéressant de déterminer la quantité minimale requise pour que le test soit positif. Le PDG est aussi informé d'autres expériences effectuées avec une substance aidant elle à transformer le gras en énergie. Des expériences menées sur des coureurs qui auraient ingéré des produits dopants sans le savoir, sorte de cobaye pour leur entraîneur. 10 ans plus tard, la marque explique que ces tests visaient à éviter qu'un de ses athlètes soit victime d'une machination. Nike n'a jamais participé à un quelconque dopage systématique de ses coureurs. Cette idée me rend malade, assure le PDG dans un email envoyé aux employés. L'argument n'a pas convaincu l'agence américaine antidopage. En plus de suspendre Salazar, l'USDA invite Nike à accepter que des erreurs ont été commises et à s'engager à protéger les droits des athlètes propres. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et à la page des sports, à Leclerc, on l'espère, 2 premières médailles françaises aux mondiaux d'athlétisme de Doha autour du cou de Quentin Bigot, médaillé d'argent au lancer de marteau, et autour de celui de Pascal Martineau Lagarde, médaillé de bronze au 110 mètres. Et en Ligue des Champions, hier soir, Lyon, qui n'avait plus gagné depuis 7 matchs, s'est imposé 2-0 à Leipzig. Lille a perdu sa 2e rencontre européenne, 2-1, battue par Chelsea. Lille qui s'éloigne d'une qualification en 8e de finale. Pas le temps de savourer son 2e succès. Le 15 de France, les Bleus vont devoir rejouer dès dimanche contre le Tonga. 4 jours d'intervalle entre les 2 matchs, puis 6 avant de rejouer contre l'Angleterre. Des cadences habituelles pour certains sportifs, mais infernale pour les rugbyman Jérôme Val.
Personne en équipe de France n'a joué deux matchs en quatre jours comme l'impose le calendrier de la Coupe du Monde. Ça n'arrive jamais en championnat, jamais en Coupe d'Europe, jamais dans le tournoi des Six Nations. Et c'est bien parce qu'il y a une raison. Le rugby impose trop de contacts et ça serait dangereux de répéter ses efforts dans un laps de temps aussi court. L'arrière des Bleus, Maxime Médard.
Même si le foot c'est un sport parfois où il y a des tacles et tout ça, c'est vrai que je pense qu'il y a moins de courbatures que nous, aux épaules, au dos, à la nuque. En club, on joue entre 6 ou 7 jours d'écart.
Des douleurs parfois si intenses qu'elles persistent plusieurs jours, comme le détaille le trois-quarts centre, Gaël Ficou.
On met souvent 2-3 jours à récupérer, donc là ça veut dire qu'au bout du troisième jour, faut redormir et rejouer le match d'après le lendemain. Donc ça va être très dur et tout le monde aura un rôle à jouer.
Le sélectionneur Jacques Brunel voit plus loin que ce dimanche et se dit inquiet à l'aube d'une telle succession de matchs.
Si jamais on a le bonheur d'être qualifié, comment on va sortir de cette période-là de 3 matchs en 10 jours? Dans quel état? C'est tout ça qui m'inquiète.
Avec 31 joueurs dans le groupe et des feuilles de match à 23, certains disputeront forcément les deux matchs, mais pas dans leur intégralité. Trop nocif pour leur santé. Fukuoka, Jérôme Val, France Inter.
Voilà, et Jacques Brunel, le sélectionneur, vient de faire son choix pour ce match contre les Tonga dimanche. On en retiendra cette charnière sereine Tamac. Et on retiendra aussi que Guirado n'est pas titulaire cette fois.
Merci Florence Paracuelo.